now. Eh bien, bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Rade de Galère, article 25, c'est aujourd'hui. Bonjour Lucien.
Bonjour à tous, encore une fois présent à article 25. Écoutez, voilà, aujourd'hui, on va essayer d'être concis sur l'actualité générale, tant au niveau du territoire qu'au niveau national et au niveau international. Donc... y a pas mal de choses à dire qui sont malheureusement pas de très bon augure, mais on se doit de les dire. Bon, alors je vais commencer par un sujet qui me touche, parce que j'ai des gens que je connais qui sont touchés par ça. C'est le sujet du logement et du logement social. Notamment à travers 13 Habitat, qui est une... société qui gère les logements sociaux sur le département. Donc, comme certains le savent sans doute des auditeurs et comme ça a fait l'actualité, par rapport au logement sur Martigues, où il y a eu cette catastrophe qui fait qu'il y a des logements qui sont devenus inhabitables, qu'on peut dire qu'on les a mis en péril imminent, quoi. Parce que du fait de la dégradation générale et du laisser-aller de l'entretien pour faire... je pense des économies de bout de chandelle ou je ne sais pas comment. Mais en tout cas, je peux dire que quand vous allez sur le site d'Habitat 13, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Avec une publicité sur ce site où on fait tout pour le logement social, etc. etc. Tout, sauf que à l'heure actuelle, par exemple, à la cité des Néréides, ils n'ont pas d'eau chaude dans un bâtiment. Et ça fait un moment que ça dure. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, parmi tous les manquements. Alors, est-ce que c'est parce que tout simplement, la plupart des gens qui habitent dans ces cités, sont des gens d'humble condition, on va dire. Et que ces gens d'humble condition, de toute façon, pour parler crûment, on n'en a rien à foutre. C'est peut-être le cas, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que j'ai l'impression que le conseil d'administration d'Habitat 13 et tous ceux qui gravitent autour, à part vouloir se donner une image, comme malheureusement c'est beaucoup le cas dans cette société où tout n'est que superficialité, se donner une image superficielle, de charité, d'accès au bien-être aux gens humbles, etc. En vérité, derrière, c'est qu'une question de gros sous et que ça marche que comme ça. Hein, et... moi, je dois dire que franchement, là, par rapport à ça, je ne suis pas trop là-dedans, mais les témoignages que j'ai reçus, c'est que des gens en colère, parce qu'il n'y a rien de fait dans le bon sens, et que finalement, on se demande où passe encore le pognon pour les logements sociaux. On se demande où il passe le pognon. On ne sait pas qui le récupère, comment il s'est géré. C'est d'un flou, j'allais dire... est-ce qu'il y a de la corruption encore là au milieu? J'en sais rien. Franchement, je dirais ni non ni oui. Mais arriver à ce point, laisser se dégrader des bâtiments quand même qui pourraient loger beaucoup de gens et qui sait... en plus, il y a des bâtiments vides dans Marseille. Au niveau des logements en péril imminent, alors j'ai appris dernièrement qu'il y avait encore 7000 familles qui étaient dehors de chez elles à cause qu'il n'y a rien de réglé sur les logements en péril imminent. Là, je parle de petits propriétaires. Derrière, vous avez vu l'affaire dernièrement du policier corrompu, enfin ex-policier, enfin bref, qui était... un marchand de sommeil, et ce marchand de sommeil, évidemment, qui louait des taudis. Donc, cette dérive sur la spéculation immobilière, parce que c'est que de la spéculation immobilière, finalement, au bout du compte, Mais c'est une dérive qui marque bien la société dans laquelle nous amène ce système capitaliste, on va dire, qui est devenu barbare maintenant. Je l'ai souligné dans un de mes écrits il n'y a pas longtemps. Il est devenu barbare parce que tout ce qui compte, c'est le taux de profit. Mais la vie des gens, finalement, elle passe au second plan. Je conclurai là-dessus sur ce sujet, qui me fait rebondir sur un autre sujet, là, encore extrêmement préoccupant. Là, c'est plus au niveau national. Mais on voit bien que le taux de profit avant la préservation de la vie, c'est bien le plus important maintenant, en France et ailleurs. Et en France, c'est bien le plus important parce que, certes, il y en a d'autres de sujets de préoccupation, mais celui-là, quand même, il vient fort. Hein. Il vient fort parce que ça veut dire quoi, la privatisation du fret ferroviaire? Ça veut dire que tout ce qui est fret ferroviaire, c'est-à-dire les wagons, les locomotives, tout ça, ça va partir à des sociétés privées. Alors, c'est pas compliqué. Les sociétés privées, ils vont garder le fret rentable. Le reste, ils vont le mettre sur des camions. Et le fret rentable, le niveau de sécurité, on peut déjà vous dire qu'ils vont faire des pieds, des mains pour qu'ils soient diminués. Parce que, un rail, on va dire un transport par rail, qui est le plus écologiquement et, on va dire, logiquement... acceptable par rapport au transport de marchandises, vu que, quand même, on va dire à la tonne, c'est le plus efficace de transporter sur les rails des marchandises et des marchandises dangereuses, parce que c'est beaucoup moins dangereux que la route, quand même. Eh bien, à ce niveau-là, on va se retrouver avec un problème, non seulement de transport de marchandises des ports jusqu'au bout de Fos-sur-Mer, c'est-à-dire là où il y a les containers et tout, là où il y a l'Avera, où il y a toutes les usines chimiques et les produits qui sont transportés par wagon-citerne, etc. On va se retrouver avec une capacité de transport, bien entendu, qui n'ira pas s'améliorant, puisque ça sera au plus rentable et pas au plus en réponse aux besoins. Et pour les populations, et pour les travailleurs, bien sûr, pour les travailleurs, alors double impact, l'impact bien sûr au niveau de la sécurité, l'impact au niveau des conditions de travail et au niveau des rémunérations, et l'impact, la dangerosité, je passerai sur la dangerosité de la manipulation de ces produits et de la manipulation de ces containers, de la fabrication des trains, dans ce sens, je veux dire, arranger les wagons entre eux, faire que tout soit cohérent. Enfin, par des camarades cheminots et par le fait que j'avais de la famille qui était cheminot, je perçois un peu ce que c'est que ce travail, mais c'est un travail dur, exigeant et surtout répondant à un besoin essentiel de transport de marchandises pour vivre, quoi. Et voilà, tout ça s'est remis en question par cette privatisation complètement insensée. Ça peut même devenir criminel, puisque les risques encourus, c'est des risques graves. Et qu'en plus, ça va mettre un camion sans doute en plus sur la route, c'est facile, hein. Le fret transporté par rail qui n'est pas suffisamment rentable par rail, on va le mettre dans des camions où on sait très bien que la plupart des transporteurs c'est tiré à l'élastique je me demande même faut le voir, hein, les chauffeurs routiers, hein, c'est sûr, ils ne bronchent plus pour grand chose, hein, entre le crédit du camion et le fait que ça tire à l'élastique de tous les côtés, la déréglementation générale des transports. Je me demande à combien de l'heure ils sont payés pour conduire le camion. Et bon, je ne vous dis pas donc, les risques encourus selon ce qu'ils transportent et selon ben, la fatigue, etc. etc. Et la multiplication déjà qu'il y a un camion tous les 50 mètres sur l'autoroute entre Martigues et Marseille et entre Martigues et Arles et tout. Alors là, ça ne va pas être un camion tous les 50 mètres, ça va être un camion tous les 10 mètres. On fait comment? Où ça va ça? Et à côté, le rail, il est vide parce que ce n'est pas assez rentable, vous comprenez? Non, mais c'est... Et voilà, et ça, c'est notre gouvernement qui fait des effets de manche de tous les côtés, se réjouit de la façon dont il fait de la politique de ce pays, mais qui en vérité nous mène droit dans le mur, dans un mur social, économique et environnemental. Parce que je ne vous dis pas les catastrophes environnementales que ça peut engendrer, ce genre de dérèglement total. Des transports de marchandises en général et des transports de marchandises dangereuses qui soi-disant doit être renforcés, mais alors là si renforcer des mesures inapplicables ou inappliquées parce que trop cher pour le taux de profit de ces messieurs qui vont récupérer tout ça, on sait déjà que par exemple que certains échecs de la privatisation notamment en Angleterre, là, c'est le plus criant, quoi. Ils avaient privatisé même les rails et tout. Ils sont vite revenus dessus. Déjà, je crois qu'ils ont eu 300 morts dans un accident, plus tous les problèmes qu'il y a eu. Même l'Angleterre, qui est pourtant un produit ultra-libéral, renationalise l'ensemble de ses voies ferrées. Et là, nous, c'est un gouvernement tellement à l'obéissance, on va dire... Du taux de profit de ses maîtres, c'est-à-dire des multinationales et des multimilliardaires qui dirigent tout ça, que n'a rien à foutre, encore une fois, rien à foutre de la vie, mais à foutre beaucoup du taux de profit de ses petits amis. Voilà, je le dis comme je le pense, mais moi, le positif là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs et de populations qui se rendent compte de cette dérive où ils sont laissés pour compte pour des raisons uniquement de pognon, hein, parce qu'il n'y a rien d'autre en vérité, il n'y a que le pognon qui compte. Ça se décline de partout. Et là, j'ai appris encore ce matin qu'il y avait des lits d'hôpitaux de fermés à l'hôpital public de Martigues, qui est un hôpital de première importance, étant donné justement le complexe industrio-chimique qu'il y a tout autour et les complexes de transport aussi. Il y a la garage de triage de Miramas, il y a des dépôts logistiques de grandes entreprises. Et tout ça, ça engendre du travail, mais ça engendre aussi des accidents, des gens qui ont besoin de se soigner pour être en bonne condition pour travailler et répondre aux besoins. Et l'hôpital public, voilà. Et l'hôpital public, quoi ? C'est nos cotisations sociales, c'est le bien commun de tous, et on le détruit. Tout ça parce que finalement... Hein, ça profite pas aux grands profiteurs et que, après tout, le profit il passe bien avant la vie. Donc on détruit les hôpitaux publics, on détruit la sécurité sociale et en avant, et on continue comme ça. On va continuer longtemps comme ça. Faut pas oublier que quand un socle social de ce niveau-là, dans un pays comme la France, est détruit, ça engendre qu'une seule chose, de la violence, de l'insécurité pour tout le monde. Et bien entendu, la montée de la plus terrible des choses, la peste brune, le fascisme. Et on le voit bien, là, ils prennent des ailes, les fascistes. Alors, c'est sûr que le gouvernement, il a dit « Ouais, on va faire en sorte que les groupuscules soient éradiqués. » Mais tu peux éradiquer les groupuscules que tu veux. Hein. Quand tu banalises une formation politique comme le Front National... le Rassemblement National maintenant. Alors en gros, il y a les groupuscules ultra-fascistes, oh mon Dieu, c'est dangereux, mais le Rassemblement National, non, c'est pas dangereux. Sauf que, par exemple, la responsable du Rassemblement National, Marine Le Pen, de temps en temps, elle va au bal de Vienne danser avec les nazis. C'est normal, c'est banal. Pourquoi pas, hein? Mais où on va comme ça? et on banalise tout ça. Et en même temps, le gouvernement, il se donne un blanc-seing de gouvernement républicain, mais ça n'empêche pas qu'il menotte les travailleurs qui se défendent et qu'il les amène au commissariat, ou qu'il les fait convoquer par les gendarmes, les travailleuses et les travailleurs. Parce que les ont dit la vérité, que ben, c'est même plus un gouvernement démocratique, c'est un gouvernement totalitaire et autoritaire qui s'en fiche et de la vie et de l'environnement, pourvu que le taux de profit soit maximal pour ses petits copains. Voilà pour l'actualité générale au niveau du territoire et de la nation. Et je vais faire passer un petit morceau de musique tranquillement. Et après, on parlera un petit peu de l'actualité internationale, parce que ça aussi, ben, c'est une question d'humanité. Parce que depuis le début, tout ce dont je vous parle, c'est une question d'humanité, une question de choix, du grand remplacement. Oui, ben, on en parlera après le petit intermède médical.
Médical, pardon. Je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge.
Il y a de quoi médical, hein.
J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Je reviens rapidement sur les transports, comme tu as dit. En France, les conducteurs de poids lourds sont généralement payés au SMIG, pas au-dessus. Bon. Par contre, si ce sont des travailleurs, si ce sont des conducteurs routiers qui viennent de la Roumanie ou autre, là, le problème est totalement différent, puisqu'ils travaillent généralement pour 800 euros par mois en moyenne, de leur propre monnaie, quoi, voilà. Ce que je voulais dire. Pour les logements, donc je prends le cas de Marseille, très difficile de savoir combien de logements disponibles à Marseille. On ne sait pas combien de logements sont disponibles à Marseille, statu quo complète. Voilà.
Oui, Daniel, tu as raison de poser cette question. Et justement, c'est encore dans le flou pour préserver cette marge de réserves immobilières et de spéculation immobilière. Par exemple, la Belle de Mai, avec au moins 10 immeubles en péril imminent, c'est devenu une réserve immobilière foncière pour les promoteurs qui attendent que l'immeuble soit vendu aux enchères pour 100 euros le mètre carré, même pas. Après, ils rasent tout, ils reconstruisent et ils vendent 2200 euros le mètre carré. T'as compris ? Voilà, c'est tout simple. Et derrière, pour le chiffre des logements vacants à Marseille, à Marseille, rien qu'à Marseille-Ville, mais il semblerait qu'à Marseille-Ville, un peu aux alentours, enfin, ça soit au moins 40 000 logements qui pourraient être habités et qui sont vacants.
Donc sur Marseille, quoi, à peu près.
Oui, oui, voilà.
Ou sur la région PACA, quoi.
Ouais, voilà, dans le.
Ouais, enfin, bref.
Voilà, comme tu dis, c'est tellement flou. Alors j'ai eu ce chiffre, même moi, je suis un peu abasourdi avec tous les gens qui traînent dehors, avec tous les gens qui habitent dans des taudis et tout, ne serait-ce qu'un minimum de. Mais non, depuis le début, je le dis, le taux de profit avant la vie, c'est tout simple.
Bon, voilà. Je reprends pour le ferroutage, tu as bien fait d'en parler, effectivement, c'est important. Cela permettrait d'assurer le transport de matières dangereuses, donc par le fret, et beaucoup moins dangereux par la route. Ceci dit, le problème, c'est que c'est au niveau aussi des entreprises de transport qui, eux, ont quand même une marge de manœuvre très, très réduite. Donc, et eux, il faut qu'ils roulent. C'est pour cette raison que le fret a de la peine à partir, voilà, à démarrer, quoi, voilà. Il est 14h22, un peu de musique et on reprend l'émission, d'accord ?
Ouais, allez, on va faire comme ça.
Un peu de playlist. Doucement, en douceur. Para musula, para ella le monte llamar.
badinga 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 le nonte ibadulula badinga buyaninge ididulu tadiyaninge amara musomana ila badinga le nonte matene ibale gine akaluma nyininga
ila badinga
konia kaluko
alula badinga le duma ameriki kalu benna mala badinga le sute
nko badinga kale sisilale badinga kale temenana kamara la badinga ibale gine akaluma nyininga konia kaluko badinga le duma motene masanta kaluko
ila badinga
ameriki kalu benama
alula badinga le duma ameriki kalu benama la badinga le sute
I'm confessedly chaotic. They wanna call me exotic. A Gemini trying to swim through. My past is maybe aquatic.
Ouais.
I'm really times in the east wind.
Oui, donc je disais, je regardais un petit truc là, parce que justement, par rapport à la précédente conversation, Daniel, tu es d'accord, là, on va passer sur l'international, mais ça rejoint un peu les préoccupations, parce que le monde entier est touché, finalement, notamment au niveau des conflits. Il faut savoir que là, bien, c'est sûr, on ignore maintenant un peu le conflit de ce qui se passe en Ukraine, mais il est toujours de la même intensité, malgré un peu... que ce soit taiseux en ce moment, mais enfin, en attendant, on a voté un budget de 3 milliards supplémentaires d'aide à Zelensky, qui, je le rappelle, en 2014, quand il a pris le pouvoir, a fait assassiner le secrétaire de la jeunesse communiste d'Ukraine et a fait brûler la maison des syndicats avec 60 syndicalistes dedans. C'est ça qu'on soutient. Bien. Moi, ça ne me dérange pas. Continuons comme ça. Non, mais je le dis en plaisantant, bien sûr. Enfin, c'est de l'ironie, peut-être un peu mal placée, mais c'est quand même assez terrible, Daniel. Hein, franchement, c'est... Bon, et derrière, on vote des budgets de guerre là-dessus, quoi. C'est... Et voilà, et c'est le conflit en Palestine, bien sûr, qui est de premier. Il ne faut pas oublier que là, on en est à plus de 3500 enfants tués. Et qu'il y a une trêve qui dure jusqu'à ce soir, qu'on ne sait pas si ça va aller jusqu'au bout, que Netanyahou ne voulait pas la trêve parce qu'ils l'ont dit clairement, en plus aux médias et tout, qu'ils sont dans une guerre d'extermination, c'est-à-dire que c'est des juifs qui se comportent comme des nazis, il faut dire les choses comme elles sont, enfin des juifs, des sionistes, hein. Attention, parce que les juifs, il y a Istanbul, il y a toute l'Union juive progressiste et tout, qui sont révoltés, qu'ils en peuvent plus peu cher. Je ne me mets pas à leur place parce que franchement, c'est triste, c'est vraiment triste, ce monde. C'est... Et donc du coup, là, sur les deux dernières nouvelles, il y a des demandes de fonds parce qu'évidemment, ils ont bombardé les hôpitaux et tout et tout. Bon, nous, en France, on ne les bombarde pas, les hôpitaux, on les démantèle, parce que, bon, Macron ne va pas bombarder les hôpitaux, quoi. Mais vu qu'à la vitesse où il démantèle, mettons, l'hôpital de Martigues, tu vois, c'est guère mieux, quoi, on va dire. Non, pas guère mieux. Non, mais sérieusement, quoi. C'est le même processus de partout. La barbarie capitaliste poussée au point qu'ils n'en ont plus rien à foutre de la vie des gens et des peuples qui veulent vivre libre. Rien à foutre. Donc, à un moment donné, sur quoi ça va déboucher? Et donc, je disais, voilà, situation en Palestine, il y a France-Palestine qui appelle aux dons, évidemment, on fait ce qu'on peut pour des couvertures, pour des médicaments, pour un peu de matériel médical, pour des anesthésiens, parce que avec les enfants qui sont pris les bombes sur la tronche et tout, il y a des opérations à faire et tout. Enfin, c'est une situation, c'est même pas la peine de la décrire. Et là-dessus, bien entendu, l'hypocrisie de notre gouvernement qui, lui, étant donné le taux de profit Israël, États-Unis et les grandes multinationales, tiens, j'ai appris que Carrefour venait passer des accords avec des trucs de commerce israéliens pour avoir la marque et tout, là, pour faire du pognon. Et en plus de ça, tiens-toi, cette marque israélienne, ils ont des magasins sur des terres occupées illégalement. Et Carrefour, il marche avec. Tu me diras, Carrefour, il a marché avec Bolsonaro, à l'époque où c'était Bolsonaro, le président du Brésil, le fasciste Bolsonaro. Carrefour. Et le conseil d'administration de Carrefour, c'est français, non? Eh bien oui, Carrefour, c'est français, non?
Oui, c'est français.
Eh bien voilà. Et c'est quoi les Français qui dirigent Carrefour? Ils ne sont pas un peu borderline? Hein, c'est pas ça doit être des copains à Le Pen, non? Moi, à mon avis, hein, quand tu fais comme ça, je veux dire, au moins ne travaille pas avec des fachos, travaille pas avec des gens qui exterminent les autres, un minimum. Tu te fais du pognon, mais quand même. Mais non, il n'y a pas de limite à ça. Il n'y en a aucune. Tout va bien. Bon, alors, il y a des gens qui appellent à boycotter Carrefour. C'est un peu difficile, des fois, parce que c'est le supermarché le plus proche. Mais bon, voilà, on en est là. Hein, au plan international, et encore, on parle que de la Palestine, on ne parle pas du Yémen, on ne parle pas du Soudan, on ne parle pas du Congo, on ne parle pas de l'Indonésie, Taïwan, tout ça, où ça charcle encore. Et c'est... Mais quand un système Et dans cette phase-là, il faut s'étonner de rien. Et j'en reviens à cet aspect d'humanité. Regarde, il y a un philosophe d'extrême droite, un écrivain d'extrême droite, qui vient d'Anne-Humena en pignon sur rue, ces gens-là, qui a développé la théorie du grand remplacement. C'est-à-dire que la peur profonde que nous aurions, ça serait qu'on serait remplacé que par des étrangers. Mais qui c'est les étrangers ?
La question est lancée.
Alors voilà, moi je pose... S'il y en a qui veulent appeler, qui me disent qui c'est les étrangers. Parce que on est étranger qu'à soi-même, finalement. Hein, si tu regardes bien. D'où tu viens, toi ? Moi, d'où je viens ? Je sais d'où je viens. Hein, mon grand-père, il vient de Sardaigne. Hein, et ma grand-mère, elle vient d'Italie. Voilà, c'est réglé. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Moi, je vais...
Voilà, donc ça veut dire que, bon, en gros... Ça a dû faire le tour de la Méditerranée, donc en gros, si je me fais l'ADN, à mon avis, c'est bon, quoi. Il y a un mélange, voilà. Mais tout le monde, c'est comme ça.
On appelle ça de la mixité.
Voilà, mais moi, je me rappelle, j'avais un copain de travail, il était kabyle, blanc aux yeux bleus, on promenait sur la Canebière, tu sais quoi. Tu sais qu'ils arrêtent les flics, ils m'arrêtent moi, parce qu'en été, je suis bien bronzé, tu vois. Et lui, blanc aux yeux bleus, ils l'ont pas arrêté. Mais c'était lui, Karim, et moi, c'est Lucien, tu vois, c'est le truc. Il était pillé de rire, obligé, ma foi. Voilà, c'est un délit de faciès, hein, facile. Hein.
Ils avaient bien choisi, quoi.
Ouais, maintenant que je suis un peu plus vieux, ils hésitent, tu vois. Ils se disent, lui, ça doit faire longtemps qu'il est sur le territoire. Mais quand j'étais jeune, je me suis fait arrêter, pas combien de fois, quand j'étais bien bronzé, normal, hein. Mes flics, ils m'ont même traité de bougnou, là, alors, pour te dire. Non, mais voilà, c'est... Et là, ça empire, quoi. Et donc, cette théorie du grand remplacement lancée par Camus, il s'appelle, mais pas Albert Camus, hein, c'est son nom, putain, franchement, un peu cher, je veux. Le Camus, l'écrivain Camus, le grand écrivain. Albert Camus doit se retourner dans sa tombe que l'autre qu'il ait le même nom, là, cette pourriture. Là. Enfin, pourriture. Même pas une pourriture. Pauvre type. Et donc, pour lui, le grand remplacement, ça va être ça. Tu sais qu'on va être remplacé par... En fait, en gros, ça veut dire qu'il y aurait des êtres humains qui sont différents, enfin, qui sont d'une autre espèce, puisque pour remplacer, il faut une autre espèce. Alors, en gros, pour ces gens-là, si tu préfères, il y a plusieurs espèces, quoi. Il y a le singe, l'avant-singe, l'après-singe, le moyen-singe, puis l'être supérieur, un nazi, quoi. Juste dis-moi. Et donc, par rapport à ça, il y a bien sûr un grand homme qui s'appelle... Un homme de lettres, un érudit, on va dire, quelqu'un qui a quand même morflé parce qu'il était résistant, et de nom, de vrai nom, comme beaucoup à l'époque de la guerre, tu sais, d'origine juive, pour se cacher des nazis, ils ont changé de nom, comme Aubrac, qui s'appelait Samuel, Raymond Aubrac. Et comme Edgar Morin, c'est à la base Edgar Nahom, ou Nahom, il s'appelle Nahom, parce que c'est un homme d'origine juive et il était d'origine juive. Donc oui. Voilà. Et donc, il a 100 ans maintenant, Edgar Morin, mais quand même, par rapport à ce que disait donc, cet écrivain d'extrême droite, là, je l'ai maltraité, tu crois qu'il va m'en vouloir beaucoup, mais bon, tant pis. C'est pas grave. Hein. Je l'ai pas maltraité, j'ai simplement dit que c'était un peu pourri ce qu'il disait, quoi, mais bon, c'est. J'espère qu'on peut encore le dire, parce que tu sais plus ce que tu peux dire dans ce pays. C'est devenu grave. Hein.
La liberté d'expression, elle est...
Bafouée.
Bafouée, quoi.
Bafouée, littéralement bafouée. Oui. Bon alors, pour Edgar Morin, et ça c'est une phrase plus belle que ça, j'aurais eu du mal à la dire, et donc je vais le citer. Pour une fois, je cite, mais franchement, c'est... Le grand remplacement... Et celui des idées humanistes et émancipatrices par les idées suprémacistes et xénophobes. Et en cette phrase, une petite phrase comme ça, le grand remplacement est celui des idées humanistes et émancipatrices, Humaniste, ça veut dire sur des valeurs de partage, de solidarité, d'échange culturel. Et émancipatrice, ça veut dire que les travailleurs s'émancipent des chaînes de leur exploitation. Il y a tout qui est dit. Parler, c'est celui des idées humanistes et émancipatrices. Par les idées suprémacistes et xénophobes. C'est-à-dire que si c'est les idées suprémacistes et xénophobes qui prennent le dessus, c'est en quelque sorte, et là, je le pose comme je le sens, une fin de civilisation, hein. C'est clair. Hein. Une fin de civilisation. Il n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce que ça veut dire suprémaciste ? C'est exactement ce qui se passe en Palestine. Les sionistes qui sont au pouvoir avec Netanyahou d'extrême droite, ils exterminent un peuple pour prendre la place, parce qu'ils se pensent supérieurs. Hein. Parce qu'il faut savoir que le sionisme, c'est prôner que, en fait, les juifs, c'est une race supérieure. Quoi. Bon, ouais. Après, les juifs progressistes, je le répète, ils ne sont pas du tout sur tout là. C'est hallucinant, quoi. Et xénophobe, c'est quoi ? Ça veut dire que parce que l'autre il est un peu plus bronzé que toi, c'est pas un être humain ? On est grave, hein ?
En ce qui concerne la Palestine, quel est le territoire palestinien ? Qu'est-ce qu'ils ont exactement comme... ils ont dit, je ne suis pas un spécialiste, qu'on s'appelle donc, de la Palestine, mais quelles sont leurs ressources exactement ? Est-ce que tu as des informations là-dessus ?
Les ressources, elles sont essentiellement... Enfin,
est-ce qu'ils avaient comme ressources ?
Essentiellement agricoles, et aussi... Un artisanat au niveau du textile et au niveau de certaines choses. Aussi une grande culture, hein, parce que ça date des Phéniciens, la culture palestinienne, une grande culture universitaire. Qui est aussi de par la diversité religieuse. Il ne faut pas oublier qu'en Palestine, vivait en harmonie. Et les bons samaritains, qui est une part de communauté juive. D'ailleurs, dans un film que j'ai vu, qui passera sûrement dans des lieux d'information tels que les UL de la CGT des Bouches-du-Rhône ou des salles où les progressistes peuvent s'exprimer, parce que c'est toujours pareil, ce genre de film, il risque pas de passer, comme tu dis, la liberté de parole dans ce pays. On a bien expulsé Myriam Aboudama, cette grande philosophe palestinienne de France, la veille de son retour à son... Ils l'ont expulsé la veille. C'est un truc de fou. Ne serait-ce que pour montrer... C'est hallucinant ce qui se passe. Et donc, je disais, voilà, dans ce film, par exemple, il y a ce qu'on appelle les Samaritains. Les Samaritains, c'est une communauté juive, mais qui n'est pas sur le même truc que les autres. Enfin, on va dire, c'est une communauté qui a sa propre définition de la religion. Enfin, j'essaye d'expliquer simplement, mais moi, je suis pas trop fort là-dessus. Mais en fait, toujours est-il que le type, le Samaritain, il s'est retrouvé accusé par les Israéliens au pouvoir fasciste, là, de je sais pas quoi. Il a fait 4 ou 8 ans de prison. Enfin, bref, un truc de fou. Ils se mettent en prison entre eux. Et il expliquait que ce Samaritain, qu'avant qu'il y ait au pouvoir ces facho-sionistes, ben, ils vivaient tous en harmonie. Hein. La religion musulmane avait les différents courants de l'islam. Les orthodoxes catholiques, les samaritains, les juifs traditionnalistes, s'arranger. C'est pas compliqué. Hein. Le fascisme, c'est qu'une question de pouvoir du capital. Hein. Et le colonialisme qui s'en est suivi, ce qui s'est passé en Palestine, c'est que, bien entendu, les fachos, quand ils prennent le pouvoir, non seulement ils se prennent pour la race supérieure, ils estiment qu'il faut éliminer toutes les autres, mais en plus, ils sont voraces et extrêmement colonialistes. Mais c'est la même chose pour l'impérialisme et le capitalisme, si tu regardes bien. Sauf que c'est un outil extrême du capitalisme qui rentre dans sa période de barbarie. Enfin, je le vois comme ça, moi, Daniel. Et aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin, parce que je vous le dis, franchement, il fallait que je sois franc. J'ai été franc avec vous, chers auditeurs. On peut parler là-dessus et tout, mais à un moment donné, il faut rester debout et ne pas sombrer dans cette abomination-là, c'est-à-dire le suprémacisme et la xénophobie. Et je reste sur cette grande pensée d'Edgar Morin, le véritable grand remplacement, le grand remplacement, et celui des idées humanistes et émancipatrices par les idées suprémacistes et xénophobes. Et si les idées suprémacistes et xénophobes prennent le dessus, ben, qu'en est-il de l'humanité? Et bien entendu, qu'en est-il de la civilisation? Au revoir, merci de votre écoute.
Ok Lucien, bien, il est 14h45, c'est 10 minutes d'antenne.
Ouais.
Je m'éloigne un peu du micro parce que...
Oui, ce que tu as envie de dire.
Voilà, vendredi 1er samedi 2 décembre, Noël de la culture à la Fédération PCF 280 rue de Lyon, 13015 à Marseille. Donc c'est Noël de la culture et promotion de livres progressistes. Bon. Débats, spectacles, expositions, restauration, buvettes, entrée gratuite bien sûr, grand choix de livres, etc. etc. Alors, le programme maintenant, bien sûr. Alors le programme, ben, je vous le lis tout de suite. Hein. Vendredi 1er décembre, 18h, rencontre autour de Lucien Sèvres et de son œuvre. Je ne connais pas. Rencontre débat avec Jean Sèvres et son fils et Jean Quétier. Je ne connais pas non plus, c'est pas grave. Philosophe, organisateur de récents colloques consacrés à Lucien Sèvres. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Samedi 2 décembre, 10h30, 12h, autour de la nouvelle histoire de la commune. Ça, c'est intéressant. Rencontre avec Jean-Marie Robert, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Paris. Voilà. Je sorte une ligne. Hein. Toujours pareil, le samedi 14h30, 16h, quelle République pour les quartiers populaires. Les quartiers populaires, ils sont bien mal employés. Hein. Tu seras d'accord avec moi. Bon, avec Philippe Rio, maire de Grigny, président de la coopérative des élus communistes républicains, bon, qui a reçu le titre de meilleur maire du monde. Voilà, bon. 17h-18h, toujours le samedi, l'artiste dans le vent de l'histoire, Mireille Rival, Bertolt Brecht, voilà. Bon, les auteurs présents, Jean-Claude Ruocco, Lucien Frou, qui est à côté de moi, bien sûr, Mérigui Gasquet, Cyrus Pierre, comment il s'appelle, Bolo, c'est ça? Oui, c'est ça. Bernard Girardi, Pedro Lima, Liliane Nasser, Robert Rossi, etc., etc. Marine Saint-Persa, Monica, comme on l'appelle, et François Thomas, voilà. C'est le programme donc de la librairie de la culture, donc vendredi et samedi. Ouverture donc vendredi matin. Voilà. Il est 14h47, je passe un peu de musique. Et un peu de musique en douceur.
Ça me vient pas. Un gâteau en pègre. Ça serait un bon élément pour faire l'apéro. Ça serait quelqu'un qui en boit quelques-uns et qui les tient bien.
Parce qu'en Picardie, on n'a pas les gars de Champagne, d'où c'est des mecs, ils sont... c'est des nazes, quoi, tu vois.
J'ai jamais connu de maçon, moi, dans ma vie.
Les gars de Champagne, c'est un méchant groupe marseillais. Moi, je les ai vus au moins 3 fois en concert. Si c'est pas 4, hein. Je les aime, les gars de Champagne.
Embrasse-moi.
Allez, va.
I 7 mari senza un perché.
Pensa di essere Mosè.
Ha contemplato montagne e fiumi in cerca dell'arche.
Come i greci ai mezzi.
Si dice vieni, vieni, vieni. Vente pa madre. Vente José lì. Poi dice vai, dai, vai. Vai a Santo Sti. Roma, Tokyo, fai.
Senza soldi a piedi, avanti e tre.
Ha conosciuto i labirinti dell'umanità.
Ai che paura c'è.
c'è una luce che brilla senza un perché, fino a quando